Chez les Morlaques, peuple pauvre, sale et très superstitieux, des montagnes de la Dalmatie et de l'Illyrie, où tout le monde croyait en l'existence des vampires et leur attribuait comme en Transylvanie la faculté de sucer le sang des enfants, dès que mourait un homme soupçonné de pouvoir devenir vampire, on lui coupait les jarrets et on piquait tout son corps avec des épingles. On croyait en effet qu'après ces deux opérations, il ne pourrait plus continuer à vagabonder. Il arrive parfois que, avant de mourir, certains Morlaques prient leurs héritiers de les traiter avant d'ensevelir leurs cadavres, comme des vampires, prévoyant qu'il pourrait leur venir une grande soif de sang enfantin. Soif de sang, soif de lait. Désir spasmodique de puiser aux sources chaudes de la vie en buvant sa quintessence. Le vampirisme, en effet, représente le visage truculent et sinistre, l'image spéculaire donc inversée du tabou qui frappe le sang humain. Chez les prêtres, les tribus allobroges du Dauphiné et de la Savoie, sur lesquels pesait l'interdit non seulement de répandre et de boire le sang, mais aussi de le toucher, le tabou avait pris la forme d'un précepte. Les enfants destinés au sacerdoce étaient soustraits à l'allaitement maternel parce que, comme l'affirmait l'évêque franciscain Antonio de Guevara, dans son livre De Marc Aurèle, présentant aux princesses d'Espagne un riche échantillonnage de superstitions et de pratiques païennes concernant l'allaitement, « Boire le lait n'est rien d'autre que boire du sang blanc, car le lait blanc n'est rien d'autre que du sang cuit, et le sang coloré n'est rien d'autre que du lait cru. » C'était un extrait du livre un peu étrange, « Manger magique, aliments sorciers, croyances comestibles. »
Marta salió de paseo por el campo. Sorprendióla una terrible tempestad. Un viejo caserón apareció ante sus ojos a la luz de un relámpago. Era el castillo del conde Drácula. Corrió hacia él, empujó el pesado portalón, subió las escaleras y allí en el último peldaño estaba el conde Drácula que le decía: oye chiquita, qué gozada, enchufa el tocadiscos y vamos a bailar. Soy un Drácula, yeye, que a nadie asusto. Si no tiemblan ante mí, no me disgusto. Soy un vampiro genial que nada chupa, aunque después me dirán que estoy chalupa. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena. Soy un Drácula, yeye. Drácula, yeye. Drácula, yeye. Yo no duermo en ataúd ni nada de eso. Veo la televisión y como queso. Cuando salgo por las noches yo no vuelo. En 1600 me voy al cementerio. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena. Soy un Drácula, yeye. Drácula, yeye. Drácula, yeye. Soy un Drácula amigo de los hippies. Tomo whisky, hago go y hago pipi. Cuando salgo por las noches vuelvo pronto, porque tengo miedo que me salga el coco. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena. Soy un Drácula, yeye. Drácula, yeye. Drácula, yeye. Drácula, yeye.
On vient d'écouter un son sorti d'outre-cercueil, Drácula Yéyé, chanté par l'acteur espagnol Andreas Parrales, dans cette petite salle du pavillon, où nous serons plongés dans la pénombre le temps de cette radio. Pour celles qui nous écoutent, mais qui ne nous voient pas, devant nous sont exposées quelques amulettes sur une table basse, et une petite montagne diffuse une odeur des forêts. Maintenant, pour adoucir vos peurs, on va vous offrir un doux breuvage végétal, tout en absorbant les notes du saxophone alto de Johann Dumas. Interprète et compositeur, Johann Dumas explore le souffle continu et la transe avec son solo Amelia Tabei, dont je vous conseille fortement l'écoute. Pour plus de précision sur le souffle continu, c'est une technique de respiration qui permet de maintenir, pendant un laps de temps assez long, un souffle d'air continu à l'aide de la bouche. En soi, il est impossible d'expirer et d'inspirer simultanément. Du coup, la technique du souffle continu consiste à conserver en permanence une réserve d'air sous pression. Pour cela, il faut utiliser les joues comme un espace de stockage, l'équivalent de la poche d'une cornemuse, pour imager. Pensez à votre souffle et bonne dégustation.
J'espère que ça a été avec le lait. C'était donc une infusion de sauge, marjolaine, tulsi, dans une boisson d'avoine. Ces trois plantes associées ne devraient pas vous faire de mal. Si nous sommes ici ce soir avec Lisa Mouchet, c'est dans le cadre d'un projet que nous sommes en train de penser et de construire. Un projet qui mêlera un fanzine, une performance et un banquet, puisque Lisa fabrique plutôt des images, des récits et des histoires parfois un peu inquiétantes comme ça. Allez voir son travail, il est très beau. Et de mon côté, je réfléchis et je cherche beaucoup autour du sujet de la mort, des rituels, des deuils, des restes et des récits que chacun et chacune a avec tout ça. Et donc, ce que vous entendrez ce soir pendant cette petite demi-heure ensemble, ce sont des références, surtout des choses qui nous suivent et sur lesquelles on s'appuie pour écrire et créer ce fanzine et cette performance. On aimerait que ce projet offre quelques pistes concrètes sur ce qui arrive aux anciens vivants, comme des pistes plus poétiques et abstraites. Et c'est en travaillant moi-même dans le secteur funéraire que j'ai eu envie de parler de tout ça, de l'économie et du fonctionnement actuel du milieu, et de toutes les alternatives en cours aussi. Et maintenant, je vais vous lire un extrait du livre « Les imputrescibles » de Nicolas Delestre, qui a lui une formation en thanatopraxie à la base, et puis qui s'est spécialisé dans l'histoire de la préservation des corps, dans l'étude des momifications volontaires ou naturelles. C'est un petit livre jaune, comme ça, que j'adore, assez technique sur la putréfaction, la conservation, et qui prend aussi comme exemple plusieurs momies célèbres. La putréfaction. La putréfaction est la conséquence de la pullulation des bactéries et des champignons du cadavre. Elle est plus rapide au niveau du tube digestif, là où la flore intestinale est responsable de l'apparition de la tache verte abdominale, à l'emplacement de la fosse iliaque droite. La tache verte, résultat de la transformation, sous l'action des bactéries, de l'hémoglobine de couleur rouge en vert hémoglobine de couleur verte, s'étend progressivement vers tout l'abdomen, le thorax, puis la tête. Elle est accompagnée d'un ballonnement du cadavre secondaire à la libération de gaz par la flore bactérienne. Le ballonnement, occupant d'abord l'abdomen, envahira par la suite le thorax, la tête, et chez les hommes, le scrotum, qui devient turgescent. La putréfaction intéresse aussi les vaisseaux. La transformation de la couleur du sang et le dégagement du gaz putréfactif font apparaître le dessin des vaisseaux à la surface cutanée. Ce phénomène est appelé la circulation posthume. L'autolyse et la putréfaction évoluent en réalité ensemble et aboutissent à une profonde modification de la physionomie du cadavre, le rendant souvent méconnaissable. La vitesse de l'autolyse et de la putréfaction varie selon la température ambiante, l'humidité. En cas de chaleur sèche, par exemple, le cadavre se déshydrate rapidement. L'autolyse et la putréfaction sont donc ralenties, voire même stoppées. Ainsi va la momification du cadavre. La masse pondérale aussi, l'imprégnation du corps par certaines substances telles que l'alcool va ralentir la putréfaction et la destruction par des animaux nécrophages. Le cadavre humain constitue, comme tout autre type de cadavre, une source alimentaire pour une multitude d'insectes et d'animaux aquatiques et terrestres dits nécrophages. Certains insectes, par générations successives, sont attirés par l'odeur du cadavre en début de décomposition. C'est le cas de la mouche bleue, qui peut pondre ses œufs sur un cadavre dès les premières heures du décès. La larve de la mouche bleue est capable de consommer 30 grammes par jour de tissu cadavérique. L'étude du stade de développement de l'insecte trouvé et de son escouade permet d'estimer l'ancienneté de la mort. Sous l'action d'autres animaux nécrophages terrestres et aquatiques, en cas de noyade par exemple, le cadavre est rapidement réduit au squelette. L'inhumation du corps réduit la vitesse de sa destruction en le protégeant contre l'action de la faune nécrophage.
Merci Marine pour cette mise en haleine. Reprenons maintenant des forces en dégustant une recette originaire de Bonifacio en Corse, le pain des morts. Il s'agit d'une recette de pain brioché à base de noix, de raisins secs, d'œufs et d'un peu de lait. Traditionnellement préparé le 2 novembre, le jour des morts, ce pain énergétique permet de rester toute la journée au cimetière pour rendre hommage aux défunts. Ce pain pouvait aussi être destiné à accompagner les défunts dans l'au-delà. Les morts se réveillant la nuit du 1er au 2 novembre, la porte des maisons était alors laissée ouverte. La cheminée allumée, ce pain posé sur la table. Le temps de la distribution, on vous laisse écouter un extrait de l'album « Youth Looks So Good and You », une hypnotique boucle sur le vieillissement réalisée par la musicienne électronique Naomi Klaus.
Demander si l'on peut éviter la mort. Le corps humain se construit en partant d'une cellule individuelle. Par un processus répété de croissance et de subdivision, l'infime noyau d'une cellule unique finit par devenir un être humain complet, composé d'innombrables millions de cellules. Celles-ci se spécialisent en vue de différentes fonctions, mais conservent certaines caractéristiques essentielles de la cellule originelle. On peut considérer cette dernière comme la porteuse du flambeau de la vie animale. Elle transmet de génération en génération la vitalité de toute créature vivante. La cellule originelle est douée d'une jeunesse éternelle. Il n'existe aucune loi naturelle de décrépitude, aucun processus de vieillissement susceptible de porter atteinte à la vitalité des cellules du banyan. La mort n'est donc qu'un accident évitable. La vieillesse est anti-spirituelle. L'aide mortelle irréelle. La jeunesse est la divinité dans l'homme, la vie spirituelle magnifique, la seule vivante aimante éternelle. Les pensées de crainte, de douleur et de chagrin engendrent la laideur appelée vieillesse. Les pensées de joie, d'amour et d'idéal engendrent la beauté appelée jeunesse. Avant de vous endormir, ayez conscience de posséder en vous un corps de joie spirituelle, toujours jeune et beau. Pensez à votre intelligence, vos yeux, votre nez, votre bouche, votre peau et au corps de l'enfant divin. Tout cela est en vous, spirituel et parfait. Dès maintenant, affirmer ce qui précède en le méditant avant de vous endormir paisiblement. Et le matin, en vous levant, suggestionnez-vous à haute voix, en vous disant à vous-même: eh bien, mon cher, il y a un alchimiste divin en toi.
On va maintenant vous lire quelques réponses qu'on a reçues à la question « Quelle serait votre mort rêvée ?» Se jeter d'une falaise à vélo, comme dans Thelma et Louise, mais pas au volant, au guidon.
Chatouiller à mort.
Envie de mourir sans blessure.
J'aimerais bien mourir sans m'en rendre compte.
Avec toi, ma queen.
Avec tous les potes, en jouant au foot.
Dans mon sommeil.
En faisant un bon gros dodo.
Arrêt cardiaque. Émoji cœur.
Dans le sommeil, ou bien soudainement, dans un contexte grandiose, pour ressentir un dernier truc de ouf.
Paisiblement, dans mon sommeil.
En haut d'une montagne, en mitouflé dans un plaid, avec le ciel bleu et une belle vue pour s'endormir.
87 ans, fou rire intense avec une de mes amantes, tellement intense que mon cœur lâcherait.
J'aimerais mourir en été, à l'instant où les cigales arrêtent de chanter, peu avant la nuit. Et j'aimerais bien que ça soit dû à une nouvelle tisane qui contient une plante à laquelle je sois allergique, et que ça soit bien sûr instantané et sans douleur. Et qu'on me retrouve assise sur ma chaise, les mains autour de la tasse, au petit matin.
Mourir dans la mer, enveloppée par les vagues.
Vieille, dans mon sommeil et sans douleur.
Lentement, allongée dans l'herbe avec la tête lourde de mon chien sur le ventre.
En essayant.
Douce et joyeuse.
Jamais immortalité, vampire mon dream.
Dans le sommeil.
Vous venez me trouver ici pour quel problème?
Pour une euthanasie.
Ah oui, clairement.
Oui.
Je pense que la mort, c'est une chose tellement naturelle, et je pense que on doit en parler, mais ce n'est pas pour ça que c'est morbide, ou que j'ai des idées noires, ou bah, pas du tout.
Pour moi, c'est quelque chose d'incompréhensible, presque. C'est accepter ce choix. Et la date et l'heure.
C'est ça, la mort choisie.
Voilà.
Un jour, vous aurez besoin de moi. Vous pensez toujours ça?
Mais c'est sûr. Il me reste de chimiothérapie. Après, il n'y a plus de solution.
Si les enfants peuvent se préparer, il faudrait vraiment le faire de manière qu'ils aient le temps de se positionner sur le fait, un, de perdre leur mère et de la perdre de cette manière. Lorsque quelqu'un doit faire une euthanasie, il doit avoir été convaincu, vraiment convaincu, par la personne en face de lui que c'est vraiment le meilleur dernier service à lui rendre. Le meilleur dernier service.
Même si je n'accède pas tout de suite à la réponse favorable pour le patient, ma solution à moi, c'est au moins de lui donner quelque chose, donc lui donner une relation d'écoute, de respect.
J'aime la vie, tout simplement. Mais pas cette vie-là.
Un coup de baguette magique, c'est ce que je dirais, c'est pouf, tout s'éteint. Plus de souffrance.
Cet extrait, c'est la bande-annonce d'un film qui s'appelle Les mots de la fin, réalisé par Agnès Lejeune et Gaël Hardy, disponible sur Arte si vous voulez le regarder, dans lequel on suit certaines consultations du docteur intensiviste belge François Dama, qui a ouvert ce cabinet de consultation sur la fin de vie en 2014 à Liège en Belgique, et qui pratique l'euthanasie. Nous sommes allés au Festival de la mort à Rennes en septembre avec Lisa. C'était la première édition du festival, organisée par la coopérative funéraire de Rennes, où le docteur Dama était l'un des invités. Et les coopératives funéraires en France font partie des alternatives importantes qui viennent, entre autres, contrer comme ça la capitalisation des deux gros groupes funéraires en place en France. Je vais maintenant vous lire la quatrième de couverture d'Au bonheur des morts, Vinciane Després, qui a évidemment beaucoup compté dans nos recherches. Faire son deuil, tel est l'impératif qui s'impose à tous ceux qui se trouvent confrontés au décès d'un proche. Mais cela va-t-il de soi ? Se débarrasser de ses morts est-il un idéal indépassable auquel nul ne saurait échapper s'il ne veut pas trop souffrir ? L'auteur a écouté ce que les gens racontent dans leur vie la plus quotidienne. Et une histoire en a emmené une autre. J'ai une amie qui porte les chaussures de sa grand-mère afin qu'elle continue à arpenter le monde. Une autre est partie gravir des montagnes les plus hautes avec les cendres de son père pour partager avec lui les plus beaux levers de soleil, etc. L'auteur s'est laissé instruire par les manières d'être qu'explorent ensemble les morts et les vivants. Elle a dû apprendre de la façon dont les vivants se rendent capables d'accueillir la présence de leurs défunts. Depuis un certain temps, les morts s'étaient fait discrets, perdant toute visibilité. Aujourd'hui, il se pourrait que les choses changent et que les morts soient à nouveau plus actifs. Ils viennent parfois réclamer, plus fréquemment proposer leur aide, soutenir ou consoler.
Penser à notre mort, c'est peut-être aussi penser à ceux qui nous succéderont. Le poème de Lynn Betasamoke Simpson, je suis pas sûre de la prononciation, je m'en excuse, extrait de son livre « On se perd toujours par accident », illustre pour moi un début de réponse. Au plus vieil arbre du monde. Je m'inquiète de ce que tu bois. Tu t'inquiètes de ce que je respire. Je t'aime bien parce que tu ne parles jamais trop fort. Tu inspires ce que j'expire. Je vous aime bien parce que vous retenez tout cela ensemble avec les morceaux que je ne peux pas voir. Tu expires ce que j'inspire. Toi, on soit mon âge. Moi, drapé dans des nuages de jeunesse. Je pense que je sais ce que tu as vu. Je pense que nous nous ressemblons. Mais ce n'est pas vrai. Je ne sais pas, non. Je ne sais pas comment dire sans te faire honte. Mais je sais que je crois qu'il faut dire les choses. Je sais, je crois, qu'il faut dire. Ta peau grise et ridée est magnifique. Et j'espère que tu n'as pas conscience de ce qui se passe. Donc pour clore cette composition radiophonique, on vous propose une écoute du morceau « Du Rocher » de Roméo Poirier, qui paraît dans son album « Hôtel Nota ». Pour décrire brièvement son travail, il crée des textures et des sonorités associées au liquide dans des compositions électro-acoustiques assez épurées et subaquatiques. Le morceau qu'on a choisi avec Marine, pour nous, évoque une attente et une sortie à la fois paisible et angoissante. Ce seront les mots de la fin.
Et merci à toutes et à tous pour votre écoute et votre attention, et aussi à Du Radio et à l'équipe du Centre National des Arts Plastiques. Merci. Thank you.